Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Lever le secret médical pour mieux protéger les femmes battues.
C'est l'une des propositions qui sera discutée aujourd'hui à l'Assemblée. La levée partielle du secret médical, une petite révolution sans doute essentielle, mais loin de faire l'unanimité. Peut-on attraper le coronavirus en mangeant chinois? Les fausses rumeurs se répandent sur les réseaux sociaux. Nous ferons le point dans un instant. Il rêvait d'être DJ ou cuisinier. Il sera nommé dans la journée numéro 1 de Renault. Portrait d'un patron atypique à suivre. Et puis un bus à hydrogène qui n'émet aucun gramme de CO2, uniquement de la vapeur d'eau. C'est sans doute l'avenir et on vous le présente à la fin de ce journal.
À 7h15, la politique avec Olivier Bost.
Et peut-on, doit-on juger le meurtrier de Sarah Halimi, considéré comme fou au moment de son acte antisémite? C'est une question qu'on peut se poser, mais c'est bien à la justice d'y répondre.
À tout à l'heure.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Mais d'abord, cette escroquerie au permis de conduire. Ça se passe à Mulhouse. Trois hommes viennent d'être mis en examen, soupçonnés d'avoir mis en place un système frauduleux qui permettait à coup sûr d'obtenir son code de la route sans avoir révisé, sans même, vous allez l'entendre, comprendre les questions. Un système bien rodé que vous allez nous expliquer, Yannick Collant.
Quand on ne comprend rien au code de la route, vaut-il mieux le passer petit A à Paris, petit B à Mulhouse? Eh bien, réponse B, des candidats de toute la France se bousculaient pour venir en Alsace. Des candidats qui ne parlaient pas forcément français et qui du coup ne comprenaient même pas les questions, mais une auto-école mulhousienne leur garantissait la réussite à l'examen contre 1500 euros en liquide. Le gérant de l'auto-école était de mèche avec un examinateur. Le jour de l'épreuve, le gérant s'installait dans la salle à côté du candidat et soufflait les bonnes réponses. Ou alors, pour les apprentis conducteurs vraiment perdus, ils prenaient carrément leur place. Une centaine de candidats auraient ainsi réussi le code contre toute attente. Un système petit a ingénieux ou petit b totalement illégal. Réponse B pour le parquet de Mulhouse qui a chiffré la fraude à plus de 150 000 euros. Les responsables de l'auto-école et l'examinateur ont été arrêté et mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Les conducteurs qui ont profité de ce système verront leur permis annulé et ils devront le repasser tout seul.
Que d'imagination.
Ah oui, formidable.
Yannick Collant pour RTL.
RTL Matin, 7h02.
Protéger à tout prix les victimes de violences conjugales. Hein. Les députés se plongent sur leur sort dès aujourd'hui.
Avec une proposition de loi qui vient clore le Grenelle lancé par le gouvernement, censé éradiquer ce fléau des femmes battues. Parmi les articles à l'ordre du jour, celui qui sera sans doute le plus discuté concerne la levée du secret médical. Un totem en France, inscrit dans la loi depuis 1810. Alors, le contexte urgent impose-t-il aux médecins de rompre en partie ce secret, d'aller eux-mêmes signaler les cas de violences suspects? Sur ce point, il y a débat et de nombreux professionnels, Émilie Bojard, y sont opposés.
Oui, beaucoup de soignants sont réticents car la prise en charge des victimes de violences existe déjà. Adrien Gantois est sage-femme en région parisienne. Il a déjà lui-même appelé le commissariat ou prêté son téléphone pour appeler le 3919, mais toujours avec l'accord de la victime.
Ce qui est important, c'est que les femmes victimes de violences puissent établir un lien de confiance avec les professionnels de santé. Et donc nous, dans une situation où on devrait, sans son accord, appeler un procureur pour informer de ces violences, c'est pour moi une vision assez patriarcale des choses.
Les soignants craignent aussi d'ajouter de la violence à la violence. Rada Hatem est gynécologue en Seine-Saint-Denis.
Ok, on porte plainte, mais qu'est-ce qui va se passer après? Si la justice n'intervient pas très vite, est-ce que cette plainte ne risque pas de mettre cette femme encore plus en danger? On ne va pas faire le boulot des policiers. Il faudrait qu'ils le fassent correctement. Il ne faudrait pas que 80% des plaintes soient classées sans suite, comme c'est le cas. Sinon, on risque aussi de la mettre plus en danger.
Et les contours de la loi devront sûrement être précisés. En attendant, les soignants attendent surtout d'être mieux formés à repérer et orienter les victimes de violences.
Émilie Bojard pour RTL. Depuis 5h30 ce matin a démarré l'évacuation du camp de migrants installé porte d'Aubervilliers dans le nord de Paris. 2000 personnes environ y vivent entassées dans des tentes, dans des conditions extrêmement précaires selon les associations. Des gymnases ont été réquisitionnés en Île-de-France pour accueillir les personnes évacuées.
RTL 7h04.
En Chine, le bilan du coronavirus s'est encore alourdi cette nuit.
Selon les autorités, 106 personnes sont désormais décédées après avoir contracté cette pneumonie virale. Au total, plus de 4000 malades sont infectés. Dans tout le pays, Pékin recommande à tous les habitants de reporter leur voyage à l'étranger. Chez nous, en France, seuls 3 cas sont avérés. 3 personnes contaminées, elles revenaient de Chine. Pour autant, une certaine panique s'est emparée d'Internet, qui en général n'aide pas à relativiser les choses. Alors ce matin, sur RTL, on fait le point, ce qui est vrai, ce qui est faux, Virginie Garin.
Toutes sortes d'idées un peu farfelues circulent notamment sur les réseaux sociaux. Donc non, on n'attrape pas le coronavirus si on mange chinois. La question a quand même été posée lors d'un appel au 15. On ne l'attrape pas non plus si on commande par Internet ou si on achète un produit fabriqué en Chine, car le virus reste vivant 3 heures maximum quand il sort d'un organisme, un peu plus longtemps si la surface est humide. Donc si vous allez aux toilettes après quelqu'un de malade qui a touché la poignée, là il y a un risque. Mais si vous touchez un objet fabriqué en Chine et qui a fait 15 jours de cargo, vous ne risquez strictement rien. En avion, il n'y a pas plus de danger qu'ailleurs. En fait, le virus se transmet par l'air, par les postillons, mais il faut être à moins d'un mètre. Si une personne tousse juste à côté de vous, ça peut être un problème. Si elle est dans un train, un bus ou un avion deux rangs derrière vous, ça ne l'est plus.
Virginie Garin pour RTL, il fallait faire cette mise au point.
Oui, oui.
Il n'y avait pas vraiment de suspense, mais Gérald Darmanin lève ce matin les derniers doutes. Il sera bien candidat au municipal à Tourcoing. Dans un entretien à La Voix du Nord, le ministre des Comptes Publics affirme qu'il sera tête de liste et confirme son envie de redevenir maire. Il avait été élu il y a 6 ans avant d'entrer au gouvernement. Sera-t-il à la fois maire et ministre ? Je crois qu'il n'est pas sain de cumuler les deux mandats, explique Gérald Darmanin. Le trafic à la RATP sera quasi normal demain, malgré une nouvelle journée de mobilisation prévue contre la réforme des retraites. La grève illimitée est derrière nous, a estimé Catherine Guillouard, PDG de l'entreprise.
Dans un instant, portrait d'un patron qui dénote, Luca De Meo. Il aime écouter de la techno en mangeant des pâtes et il sera tout à l'heure le nouveau boss de Renault. A tout de suite.
RTL Matin, 7h06.
RTL Matin.
RTL, il est 7h08, la suite du journal Dominique Tenza, Yves Calvi.
Un conseil d'administration pour acter le changement de patron.
Renault s'apprête à nommer cet après-midi un nouveau directeur général. Depuis la mise à l'écart de Thierry Bolloré en octobre, la marque Losange lui cherchait un remplaçant. Ce sera donc un Italien, Luca De Meo, ancien patron de Seat. Bonjour Christophe Bourreau.
Bonjour.
Il connaît donc bien l'univers de la voiture, mais disons-le, c'est un patron qui surtout dénote un peu dans le monde assez feutré de l'automobile.
Ah oui, puisqu'il se rêvait DJ ou encore footballeur, c'est Italien de 52 ans, qui avoue préférer la musique électro à l'opéra, se démarque dans le monde très feutré des grands patrons. Charmeur, affable, polyglotte, il jongle entre l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Chez lui, il aime cuisiner les pâtes pour les amis et le week-end piloter de belles voitures, Porsche, Lamborghini ou encore des motos Ducati. Un vrai passionné de mécanique, aussi décontracté que travailleur. Il peut ainsi passer des nuits et des week-ends sur un dossier, mais sous ses airs affables, Luca De Meo a de l'ambition. Après avoir participé au succès de la nouvelle Fiat 500, il n'hésite pas à claquer la porte de la firme italienne pour intégrer, il y a 10 ans, Volkswagen. Alors d'abord chez Audi, puis comme patron de Seat, qu'il va redresser en à peine 3 ans. Renault, c'est un retour aux sources, puisqu'il y a débuté il y a 25 ans, mais clause de concurrence oblige, il devra ronger son frein quelques mois avant de prendre le volant, celui de numéro 2, avec comme mission première, redonner confiance au groupe et tourner la page Carlos Ghosn.
Un portrait signé Christophe Bourreau. Un livre qui tombe au pire moment pour Donald Trump en pleine procédure de destitution. Voilà que son ancien conseiller John Bolton affirme dans un ouvrage à paraître que le président a bien fait chanter l'Ukraine. Une aide militaire contre l'ouverture d'une enquête sur ses rivaux politiques. Démenti de Donald Trump pour qui Bolton ne cherche qu'une chose, faire vendre son livre. Et puis l'émotion toujours très vive aux États-Unis 48 heures après la disparition de Kobe Bryant, la star du basket, mort avec sa fille et 7 autres personnes dans un crash d'hélicoptère. Selon les premiers éléments de l'enquête, les mauvaises conditions météo seraient à l'origine du drame.
C'est une baisse inédite, hein, du jamais vu depuis la crise financière de 2008.
La courbe du chômage a baissé de plus de 3% l'an dernier, soit près de 110 000 demandeurs d'emploi en moins inscrits en catégorie A. De quoi mettre un peu de baume au cœur à un gouvernement qui traverse, disons-le, une période sociale relativement agitée. Le chômage baisse lentement, mais sûrement pour Bruno Le Maire.
Nous sommes dans la bonne voie. Donc nous devons persévérer. Est-ce que c'est cette persévérance qui nous permettra d'atteindre l'objectif de 7% de taux de chômage en 2022 ? Et puis notre objectif qui est le plein emploi pour la France. Ce n'est pas arrivé depuis un demi-siècle d'avoir le plein emploi dans notre pays. Nous sommes habitués, nous nous sommes résignés au chômage. Je crois qu'on peut bâtir une société dans laquelle tout le monde a un emploi.
L'optimisme de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. La Green Week, la semaine verte en français, se poursuit sur RTL comme sur toutes les antennes du groupe M6 et dans le journal de 7h. On vous raconte chaque matin la manière dont les nouvelles technologies, les énergies propres ont déjà et vont encore davantage à l'avenir transformer notre quotidien. Ce matin, les transports et cette innovation qui devrait largement se développer dans les années qui viennent. Les moteurs à hydrogène, aucune pollution, pas un gramme de CO2, uniquement de la vapeur d'eau. En France, un bus teste déjà cette technologie du futur. Il circule dans les Yvelines. Et pour RTL, Jacques Serra est allé comprendre comment ça marche.
C'est un bus qui ressemble à tous les autres, 13 mètres de long, une carrosserie noire, grise et bleu clair.
Il est confortable.
Mais quelle est son énergie ?
Électrique, c'est ça ?
Les passagers s'interrogent.
Oui, il n'y a pas de bruit, c'est silencieux pratiquement.
Vous savez à quoi il marche ce bus ?
L'hydrogène.
5 bouteilles d'hydrogène sont en effet cachées dans le toit de ce bus. Au volant, à l'arrêt au feu rouge, Fabrice, le conducteur, regarde dans ses rétroviseurs.
On voit l'hydrogène, la vapeur d'eau qui est en train de s'évaporer par le haut. Là. Avec le frein, on le voit très bien, regardez.
Pas de pot d'échappement, zéro émission de CO2. Après 300 km parcourus, le bus doit faire le plein. Direction une station-service d'un nouveau genre. Pas de pistolet à essence, mais un tuyau flexible semblable à ceux des aspirateurs.
Donc là, j'appuie et là, c'est parti.
Un plein de 30 kg d'hydrogène, Pierre-Étienne Franc est le vice-président d'Air Liquide qui fournit cette énergie à ce bus.
Vous chargez du gaz dans un réservoir sous pression qui alimente une pile à combustible. Ça génère un courant électrique qui alimente le moteur électrique et de l'eau. Et la source d'énergie, c'est de l'hydrogène au lieu d'être une batterie qui stocke des électrons.
Un avantage qu'a bien saisi Géric Bigot. Il est le président de la SAVAC, société de transport avec 600 véhicules dans les Yvelines, dont ce premier bus à hydrogène.
L'hydrogène peut être la technologie d'avenir, à condition bien sûr que les coûts baissent. Un véhicule hydrogène est à peu près 4 fois plus cher qu'un véhicule diesel standard. Mais ça ne pourra s'opérer que lorsque ça sera plus largement diffusé.
Ce dirigeant espère donc un développement de cette énergie en France. À l'étranger, certains pays ont déjà pris de l'avance. La Chine, par exemple, prévoit 1 million de véhicules à hydrogène en circulation d'ici 10 ans.
Reportage signé Jacques Serret. C'est une information RTL. Nouvelle année record pour la filière française du bioéthanol avec un boom des ventes, plus 85% pour le superéthanol E85 distribué désormais dans 1740 stations partout en France. Leur nombre a plus que doublé en un an.
Et à 7h45, Alba Ventura reçoit aujourd'hui la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne.
Du foot ce soir, 8e de finale de la Coupe de France. 2 clubs amateurs, Belfort et Limonest, petits clubs de la banlieue lyonnaise, affrontent respectivement Montpellier et Dijon. 2 chocs de Ligue 1 également, Angers-Rennes et Monaco-Saint-Etienne.
Les courses ont lieu aujourd'hui à Vincennes.
Et Dominique Cordier vous conseille le 12, le 7, le 4, le 5, le 10, le 8, le 3 et le 15. La dernière minute, c'est le 4. Et Monet Cruz, la course du Quintet sur sisplay.fr à 13h47.
La dernière minute ou la dernière minute?
Peut-être pas qu'il y a des problèmes d'audition, vous savez.
Au moins des problèmes de prononciation.
Non, je ne peux pas l'imaginer un seul instant.
Emon Cruz.
C'était l'excellent journal de Dominique Tenza.
RTL Matin.